Il est 18h et vous êtes sur Radio Campus Paris. Toute l'équipe de Chronique Démocratique est ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode.
Salut, salut, t'as deux minutes ?
Quand on me demande « êtes-vous démocrate ?»
C'est très frustrant, mais on fait comme on peut.
La démocratie représentative ne suffit plus.
What kind of democracy is that ?
Des mobilisations citoyennes ?
Il faut le progrès, il faut pas la pagaille.
Ah, on doit parler de la démocratie là ?
Tu peux fumer en même temps ou pas ? Ouais, c'est street quoi, je t'écoute.
Un jeudi sur 4 à 18h.
Dans les épisodes précédents, nous avions vu ce qu'était la démocratie participative à la fois dans le fond et dans la forme. Quel était son but et comment elle se matérialisait ? À quoi pouvait ressembler une démarche de démocratie participative ?
Nous en étions arrivés à la conclusion que la participation citoyenne demande un certain nombre de conditions à remplir. On peut être armé de bonnes intentions, si on n'a pas une méthode et qu'on ne se pose pas les bonnes questions, nos intentions auront du mal à se concrétiser.
On voit bien qu'organiser des démarches de démocratie participative demande, au-delà de la volonté politique et de l'honnêteté vis-à-vis des citoyens, un certain nombre de compétences, d'outils, de savoir-faire. En somme, elles ont besoin de gens relativement formés pour s'en occuper. Mais alors dans ce cas, qui sont ceux qui s'occupent de la participation citoyenne en France ? À qui revient la lourde tâche de réparer la confiance et le lien démocratique ?
Est-ce le rôle des élus ? Ou peut-être est-ce celui des fonctionnaires qui peuplent nos institutions ? Du tissu associatif, des citoyens eux-mêmes ou bien d'agences privées ? Nous voulions savoir ce que vous en pensiez. Une fois de plus, on a pris notre micro et on est allé à proximité de la station Bastille à Paris pour vous demander qui organise, selon vous, une démarche de participation citoyenne.
Qui fait participer les citoyens ?
De ce que j'ai vu, c'est le maire.
Bah, je dirais comme ça, le maire.
Peut-être à un niveau assez local, donc au niveau des mairies, je pense que ça peut être assez intéressant pour que les personnes elles se sentent vraiment concernées sur ce qui se passe au niveau de leur ville.
Spontanément, j'aurais dit les mairies ou les collectivités, les institutions locales.
Parfois, vous mentionnez l'État pris dans son sens large.
Ça peut être l'État.
Normalement, c'est l'État.
La première idée qui m'est venue, c'est l'État. Mais quoi, qui dans l'État, je ne sais pas.
Bah, je pense que ce serait le rôle du gouvernement, mais bon, je pense pas que ça vienne vraiment de lui.
Enfin, pour certains, un autre acteur semble devoir jouer un rôle dans l'organisation d'une démarche participative.
Les citoyens, directement. Pourquoi ? Pour essayer justement de représenter tout un panel de citoyens, quels qu'ils soient.
Que n'importe quel citoyen puisse prendre une initiative, parce que c'est plus intéressant de réfléchir sur une décision que d'élire des gens dont on contrôle après pas les décisions. Après, je ne sais pas comment on devrait organiser les choses ou réglementer.
On vous a posé une autre question qui vous laissait perplexe.
Des professionnels de la participation. Non, très honnêtement, là, comme ça ne me vient pas en tête.
Je n'ai pas vu, mais je ne sais pas, peut-être que ça existe, mais je n'ai pas vu.
Ben, ce serait bien.
Je ne sais pas si ça existe, mais je pense que ça pourrait être quelque chose de bien. Vu que vous posez la question, je me dis probablement oui. Mais du moment où ça devient un métier, ça devient institutionnalisé, ça, et à nouveau, du coup, ce n'est plus n'importe qui. Je pense qu'il devrait aussi y avoir de l'éducation populaire pour qu'il soit accessible à tout le monde, pour que tout le monde puisse éventuellement se former, pour s'intéresser au sujet, sans que ça devienne forcément une profession. Mais peut-être ça a des avantages aussi.
Nous l'avions vu dans l'épisode précédent, et vous l'avez souligné de nouveau ici, les élus sont des acteurs incontournables de la démocratie participative.
Ce qui nous fait dire que la participation citoyenne ne concerne pas uniquement les citoyens, elle brasse aussi d'autres acteurs. Alors reposons-nous la question. Qui sont-ils ces acteurs de la démocratie participative ? Et de cette question découle aussi pourquoi le sont-ils, en quoi sont-ils concernés ou encore quels intérêts trouvent-ils dans la démocratie participative ?
Dans cet épisode de Chronique démocratique, nous vous proposons d'explorer ces questions en compagnie de deux invités. La première, Ségolène Charles, est architecte urbaniste et chercheuse sur les questions de participation citoyenne. La seconde, Julie Plouinec, travaille au GIS, une structure qui appuie la recherche sur la participation citoyenne. Elles ont toutes deux travaillé sur la question des acteurs. Julie Plouinec plutôt sur les professionnels formés à l'université pour ces démarches, Ségolène Charles plutôt dans le cadre de participation dans des petites villes sur les questions du champ urbain. C'est avec elle aujourd'hui que nous tâcherons de présenter à grands traits les acteurs présents sur le devant de la scène et de mettre en lumière ceux qui sont cachés dans les coulisses de la participation citoyenne.
Dans les communes, il y a un acteur bien connu des habitants, c'est le maire. souvent au contact des habitants, proche de ses adjoints, proche des élus des communes voisines. Il préside le conseil municipal et décide des grandes orientations pour sa ville. Faut-il construire une école? Et comment rendre la cantine gratuite? Doit-on proposer en option un plat végétarien aux enfants à chaque repas? Le maire doit répondre à autant d'enjeux locaux qui font de lui un acteur clé. Et c'est aussi le cas dans le champ de la participation citoyenne. L'acteur central, c'est le décisionnaire. L'élu, c'est lui qui prend la décision, qui donne le cap et l'ambition d'une démarche.
On arrive, on veut travailler avec ce conseil citoyen, on veut le légitimer parce que c'est tout nouveau. Lui, il ne veut plus travailler avec les élus. Nous, on dit, attendez, si vous voulez vraiment participer, il faut que vous puissiez participer à l'élaboration de la décision. Donc, finalement, il vous faut les élus, hein, il vous faut les services.
La personne que vous venez d'entendre, c'est Ségolène Charles. Elle est l'auteure d'une thèse intitulée « Le rôle de l'élu dans l'urbanisme participatif ». Architecte de formation, elle a montré dans ses travaux de recherche les interactions entre les différents acteurs qui sont amenés à travailler sur une démarche de participation. Pour les besoins de l'épisode, elle nous présente les différents profils d'élus et ce que ça peut dire de leur implication dans une démarche. D'abord, il y a deux types d'élus bien identifiés. Ceux formés à la participation et ceux qui y sont réfractaires.
Quels que soient les chercheurs, très facilement, on a l'élu qui est ouvert à la participation. Donc ça, c'est un élu qui est formé, c'est un élu qui est conscient des enjeux que peut porter la participation. Il va facilement citer les grands exemples en termes de participation citoyenne. On voit qu'il est au courant un peu des sujets d'actualité. Et il a une réelle ambition sur la participation. On a un élu, au contraire, complètement opposé à la participation, qui pour lui, il va dire... Eh bien, moi, j'ai été élue, et je ne vois pas en quoi ils sont légitimes par rapport à ces questions-là. À titre d'exemple, moi, dans une de mes études de cas, le DGS, en évoquant le président de l'intercommunalité, il disait « Monsieur le maire, quand il arrive en réunion publique, déjà, la population qui est invitée, c'est la moitié de ses services, donc il remplit les salles avec la moitié des services, et il va tirer à la mitraillette. » Donc, en gros, la moindre remarque qui sera faite sur le projet présenté à la réunion publique, lui, il va dégainer en mode « on est en mode conflit ». Alors qu'il n'y a pas forcément de conflit de la part des habitants.
Il y a une autre catégorie d'élus pour laquelle la recherche est un peu moins consensuelle.
L'entre-deux, c'est-à-dire quand même il y a un paquet d'élus qui sont ni très formés, très pour, très enthousiastes à la participation, et en même temps ils ne sont absolument pas dans une démarche, pour reprendre l'expression du DGS, poutinienne, par rapport à la question de la participation. Et comment on caractérise cet entre-deux? Alors c'est une recherche qui est encore très... À construire, en tout cas sur les publications en France. Mais on a Étienne Balland qui esquisse des typologies d'acteurs, où en fonction de l'élu stratège, l'élu en fonction de son bord politique, du milieu, du contexte où il va évoluer.
Deux autres chercheurs proposent une autre analyse de ces élus de l'entre-deux.
Jean-Hugues Beuret et Anne Cadoret sur, pas des typologies d'élus, mais des élus de l'entre-deux, qui vont agir avec pragmatisme, qui vont agir par rapport à une situation donnée, et qui vont, en fonction du contexte, ils vont peser, et ça, je l'ai reconnu dans le cadre de ma thèse, dans mon travail de thèse, le bénéfice-risque par rapport à mettre en place de la démarche participative. En général, ce qu'observent, ces deux chercheurs sur des recherches liées à l'environnement, c'est qu'il y a un effet un peu boule de neige aussi. Donc, s'il y a déjà eu une démarche participative, probablement que ça va être un paramètre qui va pousser cet élu de l'entre-deux à mettre en place une démarche participative. Et finalement, on comprend aussi la crainte initiale, surtout dans des contextes de petites villes. Ce sont des élus où ils ont beaucoup de choses à gérer à côté. Ils sont peu indemnisés pour ces questions-là, en tout cas dans les contextes de petites villes. Et du coup, la participation, ça apparaît à défaut comme une contrainte supplémentaire.
Un des premiers enjeux pour la bonne réussite d'une démarche de participation est donc lié à la volonté du maire et ou de l'élu en charge de la participation citoyenne. Plus un élu aura une culture de la participation, plus il existe de chances que la démarche organisée soit ambitieuse. Lors de notre échange, Ségolène Charles a également mentionné le portage politique. Cette notion de portage politique renvoie au couple maire-directeur général des services, plus couramment appelé DGS ou parfois DGA. Le DGS est le relais des élus du côté de l'administration. En quelque sorte, c'est lui qui en est le chef de file.
Justement, parlons de l'administration. Avoir la pluie, le soutien du DGS est une ressource importante lorsque des agents des collectivités montent une démarche. Et ces agents ont un rôle non négligeable dans la vie d'un dispositif. On pense ici à l'animation des conseils de quartier ou à l'organisation d'une saison d'un budget participatif. Parfois, ces agents évoluent seuls, parfois ils sont rattachés à un service dédié à la participation. ces postes de chargé de mission, participation citoyenne, démocratie participative, démocratie locale, se multiplient sur le marché de l'emploi. Les collectivités sont demandeuses de profils formés à la concertation, à la participation citoyenne.
Souvent, ces postes sont des postes de contractuels occupés par des jeunes professionnels en début de carrière. Ils sont issus de formations diverses de sciences politiques, d'aménagement ou d'urbanisme, par exemple. Ces postes se démarquent d'une collectivité à l'autre. Les missions changent beaucoup. Elles peuvent toucher à la mise en place de concertations réglementaires, au soutien et au développement d'initiatives citoyennes, à la formation et à l'acculturation des agents, des autres services, voire même des élus, à la logistique des démarches, etc. etc.
De manière très rapide, l'institutionnalisation de la participation, la prise en compte de la parole habitante, bouleverse le rôle des fonctionnaires, en particulier ceux des services techniques. Ces agents peuvent parfois avoir le sentiment que cette participation provoque du travail supplémentaire et concurrence leur propre savoir, leur propre légitimité. Et dans l'autre sens, les agents en charge de la participation peuvent se sentir isolés, incompris par leurs collègues, frustrés par une cause qu'ils jugent peu défendue par leur collectivité. Ces postes ont donc un rôle pivot, un rôle de plaidoyer assez constant pour diffuser les vertus, les pratiques autour de la prise en compte des citoyens dans la décision.
Vous êtes sur Radio Campus Paris et vous écoutez Chronique démocratique. On retrouve un certain nombre de démarches de démocratie participative qui dépassent le périmètre des collectivités. Ce sont des démarches qui touchent en général à ce que l'on appelle des grands projets. Ce sont des projets qui coûtent très cher, qui se déploient sur plusieurs territoires à la fois, qui s'étendent sur le temps long et touchent à des enjeux nationaux, voire parfois internationaux. Cela concerne la construction de barrages, d'autoroutes ou de voies ferrées par exemple. Ce type de projet englobe un plus grand nombre encore d'acteurs. En octobre dernier, ont par exemple commencé de grandes concertations sur la construction de 6 réacteurs nucléaires dits EPR2, dont le premier est envisagé en Normandie.
Le coût total du programme est estimé à environ 50 milliards d'euros et les centrales devraient être en service pendant 60 ans.
Vu l'ampleur du projet, plusieurs dispositifs de concertation publique sont ouverts pour amener les citoyens à se prononcer sur différents enjeux locaux et nationaux qui touchent à l'installation du programme nucléaire.
Je trouve ça très intéressant. C'est la première fois que je participe à un débat comme ça, qui était avec un sujet très, 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 très important. Je suis très contente d'être venue, mais moi, je suis tout à fait contre le nucléaire parce que je pense qu'on ne peut pas prendre ce risque énorme de nucléaire alors qu'on nous démontre par des scénarios que le 100% renouvelable est faisable.
J'ai trouvé que la confrontation des idées mais également des données qui ont été apportées par le public était vraiment très impressionnante. Alors, je pense que c'était un préalable qui était important de montrer que le scénario qui est proposé par EDF et l'option qui est proposée par EDF n'est pas la seule possible.
Dans le cadre d'un tel projet, vous vous en doutez, beaucoup de gens sont concernés par le processus de concertation qu'il faut mettre en place. Et cela va bien au-delà des citoyens. Déjà, l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils représentent des entreprises du territoire, des groupes d'intérêt, des associations, des élus locaux, tous ces gens sont des parties prenantes du projet, dans la mesure où celui-ci les impacte par son envergure. Mais aussi sont concernés ceux qui commandent le projet et ceux qui le réalisent. Dans les grands projets, le dialogue public est envisagé comme une phase à part entière du projet, visant l'appropriation collective et, le cas échéant, son évolution, voire son abandon. Et les porteurs de projets ont plus ou moins d'intérêt à suivre ces concertations.
Le cas du secteur minier est frappant. Créer une mine est un chantier avec des enjeux énormes pour les citoyens. Effets environnementaux dus au traitement des minerais, trous gigantesques sur le territoire, bruit des camions. Nombre de projets se sont heurtés à des actions citoyennes dans le passé. Or, entrer dans un conflit est un problème majeur pour les industriels. Cela fait perdre du temps, oblige à rentrer dans une bataille juridique et in fine, ça fait perdre beaucoup d'argent. Ainsi, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les investisseurs miniers sont parmi les plus sensibles à la concertation.
Mais on n'a pas toujours des porteurs de projets contraints ou consciencieux qui considéreraient que leurs projets portent des enjeux qui méritent d'être soumis au regard des citoyens et qui souhaiteraient les associer dans son processus. Le droit français a prévu la création d'une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire qu'elle est autonome du gouvernement. Créée en 1995 par la loi Barnier, elle se nomme la Commission nationale du débat public, dit CNDP. sa raison d'être, garantir que les démarches de participation et d'inclusion des citoyens se font dans les bonnes conditions. Elle peut être saisie par des acteurs politiques qui souhaitent mettre en débat un sujet.
On vous a annoncé la saisine de la CNDP. C'est une étape importante pour Yellow Park qui démontre la qualité de notre concertation, la sincérité de notre démarche. La CNDP d'ailleurs nous a rendu sa décision hier après-midi et on a pu annoncer le fait qu'elle ait choisi pour le projet Yellow Park une concertation avec deux garants indépendants et non pas le débat public.
Mais le rôle premier de la CNDP, c'est d'organiser des dispositifs appelés débats publics. Ces débats publics sont obligatoires et s'imposent dès lors qu'un projet national dépasse des seuils fixés entre 450 et 600 millions d'euros, selon la nature du projet. On parlait des grands projets juste avant, c'est précisément sur ce type d'objet que la CNDP va intervenir.
La plus grande mine d'or à ciel ouvert pourrait voir le jour en Guyane. Montagne d'or, c'est son nom, suscite les inquiétudes et la mobilisation des associations locales et de plusieurs ONG. Première petite victoire, un débat public va avoir lieu sur le sujet.
Grâce à France Nature Environnement qui a saisi la Commission nationale de débat public, la Commission nationale a décidé que, au vu de l'ampleur du projet et de ses conséquences possibles, il était bien plus préférable d'avoir un débat public organisé par une commission particulière, donc avec des experts neutres, et qui vont organiser finalement l'information de la population en Guyane.
La CNDP se veut être une véritable institution de la participation citoyenne, tant au niveau des grands projets nationaux que de démarches moins complexes ou plus locales. Mais elle n'est pas la seule instance publique qui fait de la démocratie participative. Le CESE, par exemple, Conseil économique, social et environnemental, a été choisi pour l'organisation de la Convention citoyenne pour le climat. Elle tire sa légitimité de la Constitution et représente les acteurs de la société civile organisée. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle a vocation à avoir un rôle de plus en plus important dans la participation citoyenne. On a donc plusieurs institutions françaises qui sont directement concernées par ces enjeux.
On le voit, ces démarches de participation citoyenne, petites ou grandes, locales ou nationales, sont toujours encadrées par différents acteurs. Certaines villes, entreprises ou ministères possèdent leurs propres services internes pour les organiser. Quand ce n'est pas le cas, ils s'en remettent à des institutions publiques comme la CNDP. Mais le plus souvent, et même s'ils possèdent leurs propres services internes, ils font appel à des externes qui proposent des services de prestation, et c'est ce qu'on va voir maintenant.
Parfois, pour construire une démarche participative, les décisionnaires, les élus et leurs administrations peuvent avoir recours à des prestataires. En fonction de la nature du projet, différents types de prestataires existent. Un cabinet de conseil généraliste peut intervenir sur des questions de participation citoyenne, d'innovation démocratique. On peut aussi avoir des agences d'urbanisme qui font appel à des techniques de concertation et qui ont en leur sein des professionnels formés à la facilitation. Et plus récemment, se sont développées des agences de concertation.
Ces dernières sont spécialisées sur les questions de participation, sur la méthodologie pour construire une démarche et pour l'animer. Elles répondent à des appels d'offres qui portent spécifiquement sur les questions de participation et font valoir leur savoir-faire, leur expertise. Les agences se distinguent les unes des autres par l'offre de participation qu'elles proposent. Par exemple, certaines se concentrent sur une offre numérique, ce sont les Civic Tech.
Clément Mavi, dans la méthode scientifique.
Une des origines des Civic Tech et de leur déploiement, c'est un projet porté par Barack Obama qu'il appelle l'Open Government, le gouvernement ouvert. C'est un schéma de gouvernance, un schéma de gouvernement qui propose de transformer l'action publique en s'appuyant en fait sur les données numériques et de réorganiser l'action publique autour de trois piliers. La transparence, la participation des citoyens grâce à des technologies numériques, et ça a été l'essor des Civic Tech, et la collaboration. C'est-à-dire, en gros, introduire des méthodes agiles, plutôt issues du monde des entreprises et des start-up, dans l'action publique.
Tous ces concepteurs, ces prestataires de services, viennent donc en soutien aux commanditaires, celles et ceux qui passent la commande. Selon une collaboration plus ou moins étroite, les consultants, les concepteurs, vont proposer des dispositifs et une animation particulière, et élaborer des moyens visant à mobiliser les publics choisis.
Le recours à une aide extérieure à un prestataire peut être expliqué par plusieurs raisons. Ça peut tenir à une question de ressources, de savoir-faire insuffisant en interne. On ne sait pas, par exemple, comment mettre en place une assemblée citoyenne. Quels outils, combien de citoyens, où les trouver, ou encore quelle durée ou quelle délibération veut-elle produire. Il peut s'agir d'un besoin d'éclairage aussi sur ce qu'il peut se faire en termes d'expérimentation. Parfois, lorsqu'un projet est source de conflit ou touche une question sensible, avoir recours à des prestataires permet d'avoir des tiers qui se veulent neutres, qui cherchent ainsi à donner une place délimitée à chaque partie prenante. Ce qui assure, au moins en théorie, une meilleure qualité du débat. Avoir recours à des prestataires interroge aussi les moyens d'une collectivité. Quel budget peut-elle allouer à une démarche de participation ? Parfois, il est plus rentable pour une collectivité de faire appel à des agences de concertation ponctuellement plutôt que de créer un poste permanent à temps plein. Vous avez pu le constater, la participation citoyenne en tant qu'activité touche beaucoup de monde. Cela concerne des métiers, des organisations, des gens très différents. Parfois enthousiastes, parfois réticents, parfois très engagés, parfois plus en retrait. Tous ces acteurs n'ont pas la même implication et c'est normal. Pour certains, cela constitue juste une facette de leur métier, un des composants de leur activité. Quand pour d'autres, c'est le cœur même de leur métier.
Certains acteurs y dédient l'intégralité de leur temps, développent des compétences pour. On peut véritablement les considérer comme des professionnels de la participation citoyenne. Et on l'a vu tout au long de cet épisode, que ce soit au sein des administrations publiques ou au travers d'agences spécialisées, on retrouve presque systématiquement des professionnels compétents pour organiser le débat démocratique.
Il existe aujourd'hui tout un écosystème d'acteurs professionnels spécialisés dans la participation citoyenne. Mais cet écosystème est vaste et ses acteurs ont des profils très variés. Alors, quel est le point commun entre tous ces individus ?
Le sociologue Max Weber définissait les professionnels de la politique comme des individus qui ont pour caractéristique de vivre de et pour la politique. C'est-à-dire qu'ils en font leur activité principale et ils vivent de cette activité. Cette désignation est également adaptée pour parler des professionnels de la participation citoyenne. D'abord, ce sont des gens qui vivent de la participation. Historiquement, les premiers à avoir inspiré les théories de la participation étaient des militants non rémunérés. Dans les années 60-70, ils étaient issus de divers mouvements de gauche, du milieu associatif ou de l'éducation populaire. Aujourd'hui, la participation citoyenne est beaucoup plus institutionnalisée et dans l'ensemble, les professionnels dégagent des revenus de leur activité.
La participation citoyenne est donc devenue un moyen de tirer des ressources matérielles. Les professionnels vivent de la participation, mais ils vivent aussi pour la participation. Ça ne signifie pas que leur raison de vivre y est rattachée, mais qu'ils y consacrent l'essentiel de leur temps. Vous l'aviez entendu dans l'épisode précédent, mettre en place de la participation est une démarche exigeante. Elle demande de répondre à certaines contraintes, de connaître les règles inscrites dans le droit, mais aussi les codes du monde politique. Savoir négocier pour son projet, savoir le défendre, savoir s'adapter. Tout cela requiert une maîtrise, un savoir-faire et de la disponibilité. L'enjeu de la compétence est primordial pour réussir à organiser de la participation, à l'animer, à analyser ce qu'il en ressort et à la traiter comme outil de politique publique.
Ces qualités, les professionnels ne les ont pas tous acquises de la même manière. Certains ont un profil plutôt militant, ce sont ceux issus de ces premières vagues de participation. D'autres ont plutôt un profil de consultant. Eux sont bien souvent issus du milieu de la communication politique, de l'évaluation des politiques publiques ou du conseil en stratégie. Tous ces profils amènent avec eux des visions de leur propre métier, tantôt engagés, tantôt stratégiques. En tout cas, la plupart ont acquis ce savoir-faire sur le tas au fil de rencontres et de contacts du terrain.
Mais cette dernière observation est de moins en moins vraie. Depuis quelques années, on voit apparaître de véritables formations pour préparer des spécialistes de la participation citoyenne. Par exemple, l'université Panthéon-Sorbonne propose à ses étudiants un master qui les prépare au métier du dialogue, de la concertation et ainsi de pouvoir rejoindre tout cet écosystème d'acteurs. C'est par ailleurs ce master que nous avons suivi avec Yann.
C'est là qu'intervient précisément le sujet d'étude de Julie Plouinec. Son mémoire de recherche portait sur les étudiants qui sortent de ce cursus universitaire. Elle cherchait entre autres à comprendre ce qu'ils deviennent une fois leur diplôme obtenu.
Alors du coup, mon mémoire, je le fais sur les anciens et anciennes étudiants et étudiantes du Master 2 Ingénierie de la Constatation à Paris 1, que j'ai fait aussi. Et donc, j'essaye de m'intéresser en fait à qui ils étaient avant le master et qui ils sont devenus après le master. Et voir si le master a eu vraiment un effet important sur leur trajectoire individuelle et plus particulièrement sur leur trajectoire militante. Alors j'ai fait à peu près une vingtaine d'entretiens en tout, mais sur ces 20, il y en a seulement une quinzaine qui sont d'anciens étudiants. Sur ces 15-là, beaucoup travaillent en agence, puisque aujourd'hui c'est principalement une des débouchées en tout cas qui recrute le plus d'anciens étudiants et étudiantes du master. Donc des agences privées qui font de la consultation pour plein de clients différents, que ce soit des clients publics ou privés. Et j'ai aussi rencontré quelques personnes qui travaillent aujourd'hui dans des collectivités. Et l'une d'entre elles m'a dit qu'elle s'était institutionnalisée pour un petit peu se rendre compte de ce que ça peut être un parcours d'étudiante qui va plutôt vers de la collectivité. C'est, en tout cas, c'est comme ça qu'elle l'a vécu, qu'elle s'est institutionnalisée. Et il y en a quand même que j'ai retrouvé, donc notamment dans ces 15-là, il y en a 3. Eux, pour le coup, aujourd'hui, ils ne sont plus du tout dans ce milieu-là. Mais quand je ne dis pas plus du tout, c'est vraiment, ils n'ont plus rien à voir. Typiquement, il y en a un qui est contrôleur SNCF, l'autre qui est professeur d'histoire géo. Le cœur de mes problématiques, c'est me demander si, en fait, ce master, il participe à ce grand phénomène que deux autrices ont particulièrement bien montré, que sont Alice Mazo et Magali Nangeon. D'une dépolitisation un petit peu des professionnels aujourd'hui de la participation. En fait, quand y avait une question que je leur ai beaucoup posée, parce que je la trouvais assez déstabilisante, je leur ai demandé à toutes et tous s'ils se considéraient comme des militants de la participation. Et là, alors j'ai eu du oui, j'ai eu du non, j'ai eu du je sais pas, j'ai eu peut-être, etc. Mais à chaque fois qu'il fallait prouver, en fait, parce que je les mettais un peu dans une position, il fallait se justifier en fait de pourquoi ils étaient là. À chaque fois, donc, il y a des arguments un peu qui sont donnés sur le bien fondé de la démocratie participative, etc. Et très souvent, même les manières de tourner les phrases sont en fait les mêmes que la timeline de la structure dans laquelle ils bossent. Mais en fait, c'est tellement devenu un peu la base de la base de la base de la rhétorique des professionnels, donc de ceux qui veulent travailler sur ce marché-là, qu'en fait, est-ce que ça reste des convictions personnelles ? C'est très difficile à dire, en fait. Ça serait inconcevable de ne pas avoir au moins ce discours pour être employable sur le marché. Puisque du coup, c'est devenu la norme, en fait, de penser au moins ce minimum-là. Dans ce milieu-là, c'est devenu vraiment la base de la base, quoi. En même temps, donc, on a voulu des gens qui présentent des dispositions, en tout cas au militantisme, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent ce métier passion un peu pour lequel on peut passer en fait énormément de temps. Si ça devient quelque chose, une conviction, en fait, on pourrait travailler 24-24 pour la défendre, quoi. On a voulu créer des militants. Et en même temps, il y a aussi tout l'enjeu pour une formation professionnalisante comme celle-là, que ces anciens étudiants, ils rentrent sur le marché. Parce que c'est comme ça aussi qu'on évalue l'adéquation formation-emploi de ce master 2 ingénierie. Et actuellement, le marché, donc comme l'ont bien montré les autrices que je cite encore une fois, ce marché est surtout aux mains de structures qui institutionnalisent la participation. Donc c'est beaucoup aussi de participation plutôt du haut vers le bas. Et donc là, le militantisme est aussi plus difficile à assumer. Parce qu'en fait, on attend aussi des professionnels, et donc des professionnels qui font aussi le taf qu'on leur demande, sans avoir à dire toujours ce qu'ils pensent, dans le sens où il faut faire le taf aussi à un moment.
Même si l'étude de Julie Plouinec portait uniquement sur les professionnels issus de cette même formation universitaire, elle nous éclaire sur la manière dont résonnent les professionnels, et surtout comment le champ des professionnels de la participation fonctionne. On a un écosystème qui semble être très professionnalisé. Il y a tout un tas de codes, de rites, de manières de penser spécifiques qui font écho à la fois à une position de militant et à la fois à quelque chose d'assez standard finalement dans le monde du travail. On est porteur de convictions, mais on est parfois obligé de les garder pour soi. Il y a un travail d'équilibriste et cette ambivalence, on l'a entendu, tous ces futurs experts de la participation ne le supportent pas. On a en quelque sorte un marché de la démocratie qui s'est structuré, avec des acteurs professionnels qui doivent répondre à des attentes professionnelles.
C'est assez frappant, c'est que c'est un écosystème qui est tellement minuscule. Et du coup, j'ai l'impression que ce qui se joue aussi beaucoup dans le master, c'est l'intégration dans ce réseau, en fait. En fait, le master, c'est seulement une pièce dans un puzzle bien plus large. le master crée une sorte de standardisation et d'institutionnalisation du coup de la participation en France. Ça voudrait dire que s'il existe d'autres formes de participation qui ne sont pas couvertes par le master, ça voudrait dire que ce sont des formes de concertation qui ne sont pas forcément aujourd'hui synonymes de profession, au sens où ça serait rémunéré, on pourrait en vivre et ce serait reconnu comme étant une profession.
On a pu apercevoir comment fonctionnait cet écosystème. Mais il serait inexact de dire que l'on a pu en analyser l'entièreté des mécanismes et des rouages. On aurait pu parler d'autres acteurs qui structurent le champ, comme par exemple les sociologues et l'ensemble des chercheurs qui étudient ce champ. Ils ne sont pas de simples observateurs, ils s'impliquent et jouent un rôle essentiel dans l'invention des méthodes et des dispositifs. On aurait aussi pu parler des militants associatifs ou des think tanks qui réfléchissent à ces questions et qui sont aussi très actifs.
On l'a vu, ce champ de la participation citoyenne, de la démocratie participative, est très complexe. Les dynamiques, les acteurs, les représentations qui la composent sont nombreux, le champ lui-même de la participation est en pleine expansion. À l'heure où nos démocraties connaissent une grave crise de la défiance, de l'abstention ou de la montée de l'extrême droite, inclure les citoyens devient une thématique de plus en plus importante du débat public. De ce fait, un nombre toujours plus grand d'acteurs s'empare de cette thématique.
C'est ainsi qu'on retrouve des entreprises comme EDF développer des services d'intelligence collective en interne. Celle-ci fait par exemple participer ses salariés avec des méthodes très similaires à celles que l'on retrouve dans le champ de la participation citoyenne. Encore une fois, on voit une porosité très forte entre les différents professionnels qui peuplent le champ de la participation citoyenne. Que ce soit dans le choix des outils, des prestataires, des méthodes, on retrouve finalement assez souvent des éléments communs.
Voilà, cet épisode est désormais terminé. Vous avez peut-être une meilleure vision de l'écosystème de la participation et des éléments de réponse à la question de qui fait participer les citoyens. Vous avez écouté Chronique démocratique, une émission créée et réalisée par Marie Aubert et Yann Bassereau, en coproduction avec Radio Campus Paris. On se retrouve dans un mois à 18h. À bientôt !